Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité.
Sur Radio TerraZen et vous écoutez l'émission Spiritualité en question. Bonsoir, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle émission du mois de février avec Jean Gracier qu'on va accueillir de suite. Jean, est-ce que tu m'entends?
Oui, parfaitement.
Voilà,
parfaitement. Bonsoir.
Bonsoir Jean pour cette nouvelle émission du mois de février. Et bon, c'est vrai qu'on a un petit sujet qui est quand même assez important qu'on va en parler, même si ça touche un peu le domaine de la santé, hein, comme je t'ai dit. Jean, on va parler en fait de l'épidémie de rougeole qui est en train de se développer de plus en plus en France. Mais c'est pas vraiment le terme médical qu'on va s'intéresser. C'est surtout en fait sur la psychose que c'est en train d'engendrer. Alors déjà, ce qu'on pourrait faire, Jean, par rapport à cette épidémie, je pense que tu as dû en entendre parler de ton côté. Comment on peut appréhender ce qui est en train de se passer, surtout pour les gens qui rentrent dans la psychose par rapport à ça?
Ben écoute, toutes ces maladies infantiles, moi j'ai eu la rougeole et je m'en porte très bien. C'est vrai qu'on fait courir le bruit qu'elles sont dangereuses. Alors bien sûr que de temps en temps, il y a des décès. Il peut y avoir des décès causés par la rougeole ou une autre maladie. Mais il y a très peu de décès. Il y a très très peu de décès. Et donc créer une psychose et vouloir faire vacciner la plupart des gens ou tout le monde pour une maladie qui ne mériterait pas justement de se faire vacciner. Bon, il y a beaucoup à dire là-dessus sur les vaccins et la rougeole comme les autres. Hein.
Oui.
Mais c'est une psychose. Mais parce que pourquoi? Parce que d'où vient l'information? L'information vient des médias. À qui appartiennent les médias? C'est ça qu'il faut voir.
Oui.
C'est comme ça qu'on peut arriver à comprendre ce qui se passe. Pourquoi on veut faire passer cette information? Il y a toutes ces questions auxquelles... toutes ces questions qui... Si on arrivait à avoir les réponses, du coup, on pourrait comprendre beaucoup de choses. Donc, les premières questions, c'est comment vient l'information? Comment on arrive à savoir qu'il faut vacciner, que la rougeole peut être dangereuse, tout ça? Mais c'est les médias qui nous font passer l'information, que ce soit la presse, la radio, la télévision. Et dans quel but? Quel est le but de tout ça? C'est sûrement pas le but pour... dans le but de protéger la santé de nos concitoyens. C'est pas ça le but. Le but est commercial, on le sait d'abord. Donc vendre des vaccins, c'est ce qui rapporte le plus aux laboratoires pharmaceutiques, hein, ça, on le sait.
Oui, tout à fait.
Donc voilà, et on crée des psychoses. C'est vraiment dommage. Voilà, on est à une époque incroyable où il y a encore des choses comme ça. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, pour moi, se faire vacciner contre la rougeole, c'est pas du tout utile. Hein. D'ailleurs, je pense que même la plupart des vaccins ne sont pas utiles. Pour tout dire, je vois pas aucun vaccin puisse être utile. J'ai pas suivi exactement qu'est-ce qu'on en dit à propos de cette psychose, est-ce que le gouvernement a lancé un décret obligeant les gens à se faire vacciner? Je sais pas, je me suis un peu déconnecté là.
Disons que moi j'ai pas spécialement suivi l'affaire et tout ça, j'entends un petit peu autre, surtout parce que Je suis un peu sur des groupes aussi de liberté vaccinale. Hein. Je rappelle que la radio, on n'est pas anti ou pro-vaccin. On est surtout pour la liberté de choisir, hein, chacun de choisir. Hein. C'est ce que, ça fait même partie du serment d'Hippocrate, hein, de choisir ce qu'on veut mettre dans son corps. Hein. C'est un peu le but. Oui. Mais c'est vrai que là, c'est en train de prendre une ampleur parce qu'en fait, ces épidémies de rougeole, moi, je m'en souviens, ma grand-mère m'en a parlé quand elle a connu jeune, enfin, quand elle était plus jeune, et même moi, quand j'étais plus jeune, j'en ai connu des épidémies de rougeole ou de varicelle et tout ça. Et il faut savoir quand même que si on dit que c'est une maladie dite infantile, parce que maintenant, les médecins n'en parlent plus, mais j'ai quand même contact avec d'anciens médecins, comme notamment Christian Talchaleur, je suis en pourparler pour voir, pour faire une émission avec lui, justement, par rapport à ça. Et donc, en fait, ces maladies donc dites infantiles étaient là justement pour entraîner le système immunitaire à fonctionner, pour l'apprendre à comment gérer des maladies. C'est vraiment important parce que c'est un peu son apprentissage. Hein. Justement, je pense que sur ça, tu seras d'accord avec moi. C'est comme le corps, hein. Les expériences de vie, c'est un apprentissage. Donc là, c'est un apprentissage du système immunitaire. Et donc là, en fait, on ne sait pas trop pourquoi. Maintenant, il faut éviter absolument toutes les maladies. Il faut vraiment faire très, très attention. Il ne faut pas tomber malade et tout ça. D'ailleurs, l'utilisation du gel hydroalcoolique à des quantités énormes maintenant fait que les bactéries ne sont plus du tout sensibles au gel hydroalcoolique. Donc là, ça touche un sacré truc par rapport à ça. Donc du coup, ça rend totalement inoffensif ces produits. Et là, en fait, avec cette épidémie de rougeole, quelque part, la ministre de la Santé utilise justement cette épidémie-là, comme dire, il faut vacciner parce que voilà, la loi des 11 vaccins, vous voyez, pourquoi je l'ai fait, c'est parce qu'il y a ce genre de choses-là. Il ne faut plus que ça arrive, alors qu'en fait, ça existe depuis tout le temps. Depuis tout le temps, ça existe là. Mais il faut savoir que ces maladies infantiles, si on dit infantiles, c'est pas pour rien, c'est parce que elles sont là pour entraîner le corps, hein, ce que je disais, le système immunitaire, mais c'est parce que en fait, elles sont très rarement graves en étant enfant. Par contre, en attrapant ces maladies de façon adulte, ce qui est arrivé avec une personne dans un hôpital qui était âgée de 32 ans, qui est justement la première à être décédée de cette épidémie-là. Alors, les raisons lesquelles exactement, on n'en sait pas trop parce que les médias n'en disent pas trop. Hein, ils restent quand même assez... Ils survolent sur les choses. On ne sait pas si la personne avait des antécédents de faiblesse de système immunitaire. On sait juste qu'elle était à l'hôpital. Mais pourquoi ? Ça, on ne sait pas plus. Bon, il y a le secret médical, ok. Mais c'est vrai que ça pourrait donner quand même un indice un peu plus important par rapport à ça. Et de ce fait-là, vu qu'il y a le matraquage, ce que tu disais, médiatique, le matraquage des ministres et tout ça, donc du coup les gens commencent à prendre peur parce qu'ils reçoivent des courriers de l'ARS par le biais des écoles qui disent qu'il faut vérifier si l'enfant a été vacciné. Alors il faut savoir que l'obligation des 11 vaccins, ça ne se situe qu'à partir des enfants qui sont nés à partir du 1er janvier 2018. Tous ceux qui sont nés avant, c'est l'ancienne loi, c'est-à-dire les trois obligatoires, hein, les trois obligatoires qui sont DTP. Voilà. Voilà. Et donc, en fait, les autres ne sont pas obligatoires. Mais là, on a l'impression qu'ils sont en train de faire comme un truc rétroactif. Et c'est ça que je pense qui crée une psychose par rapport à ça. Et c'est vrai que je vois des gens qui sont totalement paniqués. Alors, c'est pour ça que pour les gens qui vont peut-être nous écouter en direct ou par le biais de podcast, c'est pour ça que comment appréhender en fait cette peur pour éviter de ne plus avoir peur, parce qu'à l'époque, les médecins, je le rappelle, ils disaient même il faut attraper les maladies infantiles pour que vous soyez immunisés. C'est des discours que j'ai déjà entendus. Donc,
Moi, j'ai vécu à cette époque-là.
Voilà,
et oui. C'est que dans la famille, je sais qu'on a eu à peu près toutes les maladies, la rougeole, la rubéole, on a eu à peu près toutes ces maladies, et puis on s'en porte très bien. Et c'est vrai que le système immunitaire est renforcé. Alors, il y a une chose que je voudrais dire, c'est que c'est vrai qu'on peut parler des vaccins. Je pourrais en parler, mais je ne suis pas un spécialiste, moi, du tout. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'inciter les gens à écouter des vidéos comme celle de celui que tu as cité tout à l'heure, c'est Talchaleur.
Christian Talchaleur.
Lui, il s'est spécialisé, enfin, ça fait longtemps qu'il a écrit des livres sur les vaccins. Il en parle très, très bien. Et ce qu'il dit... c'est appuyé sur beaucoup d'expérience.
C'est ça.
Il y a aussi une autre personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Michel Georget. Michel Georget.
D'accord.
Et à mon avis, c'est un des meilleurs spécialistes sur les vaccins qu'on puisse trouver. Parce que lui, il n'est pas médecin, il est biologiste. Il est agrégé de biologie, donc c'est quand même un monsieur qui est dans ce monde-là. Hein.
Oui.
Et il s'est penché sur les vaccins il y a déjà pas mal d'années. Et il a vraiment étudié ça de façon très, très, très scientifique. C'est un monsieur très calme, très mesuré dans les propos qu'il a. Mais les propos, lui, sont très forts parce qu'il en arrive à dire que les vaccins... lui, il dit, comme tu disais tout à l'heure, que chacun ait sa liberté, la liberté de choisir de se faire vacciner ou pas, hein, bien entendu.
C'est ça.
C'est ça qui est important. Mais lui, il démontre, parce qu'il a fait vraiment des études et des recherches statistiques sur... par exemple, quand on dit que les vaccins ont fait reculer la variole, la polio, etc. Lui, il démontre que c'est tout faux, que c'est le contraire. Mais de toute façon, je ne vais pas en parler. Je voudrais juste dire aux gens, moi, c'est comme ça que je donne l'information, je fais passer ces vidéos, que les gens regardent ces vidéos. Mmh. Ce sont des vidéos qui ont 40 ou 50 minutes, mais c'est tellement bien expliqué qu'on comprend tout à fait. Et lui, de son avis, ben, comme Christian Talchaler, comme beaucoup d'autres,
oui.
Comme par exemple Sylvie Simon qui nous a quittés il y a un an ou deux maintenant,
tout à fait, oui.
Qui s'est penchée sur le problème et pendant des années, elle a très très bien étudié. Elle n'était que journaliste pourtant. Oui. Mais Michel Georget, je reviens sur lui, c'est que vraiment, moi c'est un homme qui a déjà 80-82 ans. Il fait beaucoup de conférences, beaucoup de vidéos et le ton qu'il emploie pour expliquer, il est très très calme, très mesuré, mais on sent que vraiment il a étudié ça. Il ne dit rien au hasard. Tous ses propos sont articulés par rapport à vraiment à beaucoup d'expériences, à des recherches très poussées sur ce sujet. Et lui en arrive à démontrer que les vaccins ne sont pas utiles du tout, tout simplement. Voilà. Et j'imagine que des gens non avertis qui écouteraient une vidéo de Michel Georget, eh bien, seraient vraiment informés. Hein. Vraiment informé, de façon ensuite à décider ce qu'on doit faire. Je crois, voilà, notre rôle, comme celui d'une radio, comme la tienne, c'est justement d'informer et pousser les gens à regarder ces vidéos. Voilà.
À s'informer.
S'informer, il faut vraiment s'informer. Parce que l'information, si elle nous vient toujours du même côté, c'est-à-dire de l'ensemble des médias courants que nous connaissons, on n'aura pas la bonne information.
C'est ça.
On n'aura pas du tout la bonne information. Et du coup, on sera poussé à faire des bêtises. Et des erreurs graves. Hein, parce que se faire vacciner, c'est un acte très, très grave.
Oui, c'est un acte médical qui n'est pas anodin, contrairement à ce qu'on nous dit. Hein.
Absolument, c'est pas anodin du tout. Se mettre un produit dont on ne connaît absolument pas la composition, on ne sait même pas d'où ça vient, on sait rien. Se mettre un produit dans le corps, bah, c'est criminel. Hein, voilà. Donc il faut faire attention, il faut beaucoup, beaucoup s'informer. Et à écouter Michel Georget, qui est un biologiste, il faut voir un peu la manière dont il explique la composition d'un vaccin, etc., les recherches qu'il a faites. Vraiment, ça éclaire vraiment beaucoup sur ce sujet. Vraiment. Ouais. Moi, c'est ce que je fais.
Hein. Oui.
Tranquillement, ben, je fais passer des vidéos. Voilà. Regardez ces vidéos et ensuite... Eh bien, vous exercez votre propre discernement, vous faites, voilà, vous êtes, on commence à devenir libre, quoi.
Oui. Ben oui, de toute façon, normalement, le vrai but du journaliste, hein, le code de la déontologie du journalisme, c'est déjà, la première chose, c'est de croiser les informations. Sauf que là, on voit qu'il y a toujours une information qui est unilatérale. Et c'est ce que j'ai vu dans une vidéo d'un autre monsieur, là, je ne sais plus son nom, qui expliquait justement par rapport à ça, qui disait qu'on a deux côtés. On a d'un côté la science et d'un côté le scientisme. Et il a dit que c'est totalement deux choses qui sont totalement différentes. La science se base sur des faits, sur des choses qui ont été vérifiées, un peu comme tu disais sur Michel Georget. Et de l'autre côté, tu as le scientisme qui est là, c'est les pouvoirs, c'est les médias, et c'est le gouvernement qui parle de ça, qui parle de choses, mais qui ne sont pas du tout étayées. Comme là, on peut nous dire que les vaccins sont 100% sûrs, Bah non, parce que là, récemment, il y a eu quand même des cas de 3 morts d'un vaccin de la dengue aux Philippines. Donc, si c'était fiable à 100%, déjà 100%, ça n'existe jamais. Hein. C'est toujours quand tu fais un test de grossesse ou autre, on te dit qu'il est fiable à 99,9%. On te laisse donc 0,01% d'erreur. Bon, voilà, parce que le 100%, ça n'existe pas. Voilà. Donc, comment on peut utiliser de tels propos alors que même les fabricants de tests de grossesse ne disent jamais mon test il est fiable à 100%, quoi. C'est de là qu'on essaye un petit peu d'aider les gens un peu à s'ouvrir sur le côté de ne pas tomber dans la psychose, dans la paranoïa, parce que là, on se rend compte que le pouvoir de la peur, hein, ce qui a été utilisé juste avant la mise en place du système nazi et Hitler, ça s'est basé sur de la peur. Et là, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on est dans une atmosphère vraiment de peur concentrée, quoi. Là, je le remarque de plus en plus, quoi.
Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que les choses, c'est vrai, elles changent. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est la force des médias, des grands médias, des télévisions, des journaux, la puissance de l'information qui fait que les gens bien, sont plus libres. Cette puissance des médias ont ôté la liberté aux gens, quoi. La liberté de penser, la liberté de réfléchir et de décider. Ce mouvement unique, cette pensée unique,
oui, c'est ça,
qui touche l'ensemble des médias, fait que les gens vont avoir une réflexion unique dans un même sens. Et c'est vrai que c'est contraire à la déontologie du journalisme. Mmh. Et ça, c'est ça le vrai danger. C'est ça le vrai danger. Les gens devraient s'interroger et savoir et réfléchir d'où viennent les médias, à qui appartiennent les médias. Et quand on a la réponse à cette question, eh bien, il y a beaucoup de choses qui s'éclairent. Et là, on commence à voir plus clair. On commence à comprendre ce qui se passe. Et c'est ça qui est important de voir. Et ça, c'est, tu vois, ce genre d'information, voilà, quand on est une radio libre, eh bien, c'est ce genre d'information qu'il faut donner pour que les gens puissent ouvrir les yeux et abandonner ce même type d'information. C'est comme si on achetait toujours le même journal. Forcément, on va penser exactement comme ceux qui écrivent le journal. On ne peut pas penser autre chose. Mmh. Donc là, il y a une manipulation qui ne dit pas son nom, mais c'est une vraie manipulation aussi. Voilà. Mmh. Et donc la presse française, eh bien, elle appartient à quelques personnes, les mêmes, et qui détiennent quasiment l'ensemble de la presse. Ils sont un noyau de personnes qui tiennent sur les doigts de la main.
Oui.
Bon, ils sont que quelques-uns, 5 ou 6 là, et ils possèdent l'ensemble de la presse. Et quand on sait que ces gens-là sont les plus riches, sont parmi les plus riches, hein, eh bien, voilà. Et ils ne vont pas se contredire l'un et l'autre. Ce qui fait que quand on regarde une télévision ou une autre, ou une troisième, si on achète un journal qui a un titre ou un autre, en fait, on a toujours la même information, à peu de choses près. C'est ça le danger de notre époque.
C'est ça. Bah, il faut savoir en fait que l'information passe par comment ça s'appelle l'AFP. Voilà. C'est elle en fait qui lance les articles et après les journaux puisent l'article dedans. Ils modifient un petit peu. Hein. Grosso modo, ils font un copier-coller. Hein. La plupart du temps, les journalistes, ils se cassent même pas la tête. Donc, ce qui fait qu'ils font pas en fait leur métier de journaliste. Hein. Ils sont là juste. On pourrait dire que c'est un secrétaire, tout simplement, parce qu'il fait un copier-coller. Il change un petit peu le texte pour éviter qu'on voit que c'est un copier-coller. Et c'est tout. Mais c'est vrai que quand tu regardes sur différents gros journaux, tu te dis, mais attends, ils disent exactement la même chose, quoi.
Alors, oui, non, mais bien sûr. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça va bien au-delà de ça. C'est qu'un journaliste qui voudrait, de son propre chef, écrire un article sur un sujet comme les vaccins, par exemple. Imaginons un journaliste important qui aurait lu... qui aurait vu une vidéo, qui aurait assisté à une conférence de Michel Georget, et qui d'un coup transcrive un peu ce que dit Michel Georget, il aurait des ennuis avec sa direction. Hein.
Ah oui, non, mais ça c'est clair.
Il aurait des ennuis avec sa direction, hein. On lui dirait de changer son article, ou bien c'est la porte, ou bien d'autres représailles. Donc les journalistes ne sont pas libres, parce qu'ils ne peuvent pas écrire ce qu'ils veulent. Alors bien sûr, ce que tu dis, oui, c'est juste. L'AFP diffuse les informations et tout le monde pioche dedans. Mais au-delà de ça, un journaliste n'est pas libre, il n'est pas libre d'écrire ce qu'il a envie d'écrire. Mmh. Il faut que ce soit conforme aux directives de la haute direction, hein, et non pas le rédacteur en chef, mais ceux qui sont au-dessus. Et c'est ça qui fait que la presse n'est pas libre. Et si la presse n'est pas libre et puis qu'elle diffuse toujours les mêmes informations, eh bien les gens ne sont pas libres. Et c'est ça qui est important. La liberté n'existe plus dans ce pays, quoi. Mais il n'y a pas que dans ce pays, hein.
Oui, y en a d'autres, hein. Et c'est souvent pas ceux qu'on pense.
Et oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est ça le danger de cette époque que nous vivons. Mais c'est une époque extraordinaire parce qu'en fait, on peut exercer sa liberté, mais la liberté, elle est individuelle, elle n'est pas collective. La liberté, c'est surtout ce qui est à l'intérieur de nous, hein. C'est ça qui est important.
Oui.
Et donc, bien sûr que elle passe par un éveil des consciences aussi. Plus notre conscience s'élève et plus notre liberté grandit en nous. Ça, c'est important de le comprendre. Donc, c'est à nous de faire passer les infos, c'est à nous d'éveiller les gens.
Justement, là, j'ai un petit peu fait des recherches en même temps sur Michel Georget. Je vois qu'il a été président, en fait, de la LNPLV, donc la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations, de 92 à 93, hein, donc ça date. Hein. Et il a été aussi, donc, il est auteur du livre Vaccination, les vérités indésirables, sorti en 2017.
Ouais.
Et il en a fait un autre, Vaccination, les vérités indésirables. Donc c'est disponible, je vois, sur Amazon. Et par contre, je vois aussi qu'il a. Alors, tu vois, on disait les médias mainstream, bah, il y a la Nouvelle République qui en fait un article justement sur lui, le biologiste Michel Georget. Contre les vaccins, dedans, tu as un article en fait, qui parle de lui à l'intérieur. Donc, ça date du 29 janvier 2016. Donc, ça date quand même. Quoi.
Oui,
ça date quand même. Hein.
Oui.
Mais c'est d'ailleurs, je regarde, c'est le seul journal qui a parlé de lui, toi. C'est pas
oui,
le plus connu. Hein.
Oui. Mais pour moi, c'est celui... Je me suis pas mal intéressé à ce sujet parce que ce sujet touche une de mes parties, une de mes spécialités qui est la maladie aussi. Et je me suis aperçu que Michel Georget, c'est un de ceux qui a cherché de façon scientifique et démontré, vraiment démontré, par des recherches qu'il a effectuées depuis des années, il a démontré que les vaccins ne sont absolument pour rien dans l'éradication de certaines maladies. Le vaccin n'y est pour rien. Il est juste intervenu, il est arrivé à un moment donné, quand pour la plupart des maladies, elles étaient en train de baisser
en nombre. Oui.
Et donc, on a attribué au vaccin le bénéfice de ça, alors que c'est faux. Mais il a fait un travail purement scientifique, et c'est ça que j'aime bien. Hein. Mmh. Il donne pas des allégations comme ça, gratuites. Il a travaillé et il a démontré. Et c'est ça que j'aime chez lui. Voilà. Pour ça que parmi tous ceux qui en parlent, à mon avis, jusqu'à maintenant, je me semble que c'est celui qui en parle avec le plus de crédibilité, à mon avis.
Oui, parce que c'est vrai que Sylvie Simon, elle, s'était basée plus sur du côté journalistique, parce que, comme tu disais, elle était donc journaliste. Elle a fait vraiment un véritable travail d'enquête journalistique. Et elle, elle a fait la même conclusion, sauf qu'avec les stats, elle a mis l'endroit à quel moment a été introduit le vaccin. Et on voyait que les maladies étaient sur une pente descendante, quoi. Donc elles étaient en train de disparaître. Sauf que là, quand même, les cas de rougeole, pour le cas, là, pour en revenir un petit peu au fait d'actualité, il y en a toujours eu. Hein. Il y en a eu une, par exemple, en Suisse, l'année dernière, période de janvier-février 2017, à Lausanne. Et donc, ça a été une grosse épidémie. Pourtant, on n'en a pas entendu parler en France, hein, de ce qui s'est passé en Suisse. Hein. Pourtant, eux, ils ont fait dans le journal, donc c'était RTS Info, donc le média suisse officiel, hein, comme nous, France Télévisions.
Oui.
Eux, en fait, ont parlé de ça. Ils ont fait un peu leur travail de journaliste et ils ont remarqué qu'une grande majorité des enfants qui a été atteints de la rougeole étaient vaccinés. Donc, ils se posaient des questions comment ça se faisait qu'ils avaient contracté cette maladie alors qu'ils avaient le vaccin qui était censé justement empêcher ce développement de maladie.
Mais c'est assez courant.
Oui.
Michel Georget l'a remarqué, bien entendu. C'est assez courant de remarquer que ceux qui sont vaccinés vont développer plus la maladie que ceux qui ne le sont pas.
Oui, c'est ça.
Mais ça, on ne le dit jamais. Personne ne peut le savoir.
Oui.
C'est pas étonnant quand on sait comment marche un vaccin, c'est pas étonnant. Mais bon, en principe, c'est pas comme ça que ça devrait être. Si on est vacciné, on ne peut pas avoir la maladie.
Tout à fait, c'est le but. C'est le but. Parce que c'est vrai que souvent, quand tu discutes un petit peu de ce genre de sujet avec des personnes qui sont pro-vaccin, hein, comme je le rappelle, à la radio, on n'est pas des anti, hein, on est juste pour la liberté vaccinale. Quand on leur parle avec ça, on a de suite le sujet à dire « Ah oui, mais les gens qui ne sont pas vaccinés, ils vont propager la maladie et tout ça. » Et moi, souvent, je leur dis « Mais tu es vacciné. Pourquoi tu as peur de contracter la maladie, parce que tu as le vaccin, donc tu es censé être immunisé contre le vaccin. Donc si tu as quelqu'un qui n'est pas vacciné, ben, ce n'est pas un danger. À la rigueur, ce n'est pas toi qui seras atteint. » Et là, après, ils se posent des questions, toi. C'est... Toi, ils se rendent compte qu'ils se font piéger quoi, dans leur discussion, dans leur raisonnement.
Bien sûr, bien sûr. Mais ce sont des gens qui n'ont pas assez réfléchi.
C'est ça.
Et oui, bien sûr. Mais tu sais, les gens ne sont pas à blâmer. Ils ne sont pas à blâmer. Ils ont l'information qu'ils ont. Ils ont l'information qu'ils reçoivent par la télévision parce qu'ils ne font pas d'efforts pour aller chercher d'autres informations ailleurs. Mais comme on leur dit que les informations qu'ils vont trouver ailleurs ne sont pas bonnes, alors ils font de moins en moins cet effort, tu comprends ? Donc là, il y a un effort à faire, aller chercher la bonne information. Ça, c'est important. Il y a une chose aussi que je voulais dire, il y a aussi des gens qui, des médecins connus, qui se sont opposés aux 11 vaccins obligatoires.
Oui.
Sous prétexte qu'il y avait de l'aluminium dans les vaccins, etc. Alors, je vois des bagarres là-dessus, des luttes oratoires, etc. Bon. En fait, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que un médecin qui s'oppose aux 11 vaccins, c'est bien, mais c'est tout à fait insuffisant. C'est pas aux 11 vaccins qu'il faut s'opposer, c'est à tous les vaccins.
Oui.
Tu comprends ? Dire oui, mais il y a des vaccins qui sont bons. Non, il n'y a pas de vaccins qui sont bons. Il n'y a pas de vaccins qui sont bons. Il faut écouter, je reviens toujours, il faut écouter ceux qui savent très bien en parler. Michel Georget, Tal Chaler. Les vaccins ne sont pas bons. Alors moi, je le sais depuis longtemps parce que je l'avais étudié, mais je n'ai pas fait de recherche, je ne suis pas un spécialiste, bien entendu.
Oui.
Donc, je le sais. Et je sais par expérience, parce que je vois autour de moi, en observant, ceux qui ne sont pas vaccinés sont bien en meilleure santé, bien entendu.
Oui. Ben, y a un livre qui a été fait comme ça. Je ne sais plus l'auteur, par contre. Le titre, je crois que ça doit être Les enfants vaccinés sont... Non, les enfants non vaccinés sont en pleine santé. Enfin, c'est un titre comme ça. Et justement, ça parle de ça que... Alors là, par contre, c'est pas une personne... Je crois pas que c'est une scientifique qui parle. Je pense que c'est plus quelqu'un, en fait, qui a fait son travail de journalistique, un peu comme Sylvie Simon, qui a étayé avec des choses, qui a croisé les informations avec des faits, hein, pareil. Hein, parce que le journaliste, il se base sur des faits, hein, il se base pas sur des trucs complotistes. Hein, ou des trucs qui sont en bracatabran. Lui, c'est... Voilà. Et donc, il s'est avéré qu'effectivement, qu'il a remarqué que, bah, dans des stats, hein, des statistiques... Hein, que les enfants qui étaient vaccinés, ils étaient plus souvent malades.
Bah, bien entendu.
Voilà. Et quand je dis malades, c'est pas forcément des maladies qui sont du vaccin. Ça peut être, il a très souvent des fois des petits rhumes, très souvent des gastro, etc. Quoi. Donc on se dit, mais comment ça se fait ? Pourquoi ? Parce que le système immunitaire, on l'a rendu malheureusement feignant. Donc du coup, lui, lui a dit, attends, si on me donne des antibiotiques et le reste, je vais pas me casser la tête à faire mon travail. Alors que ces maladies-là, elles sont là justement pour entraîner le système immunitaire. Je crois que c'est même Christian de Talchaler qui en parle de ça, de comment fonctionne le système immunitaire, etc. Très intéressant d'ailleurs. Et c'est là qu'on comprend mieux le rôle, parce que les vaccins, ok, bah ouais, mais le problème, c'est qu'on fait reporter une maladie qui est infantile plus tard, sauf qu'à l'âge adulte, si on chope la rougeole, c'est plus le même truc. Hein. C'est comme la varicelle. Hein. La varicelle...
Oui, oui. C'est plus grave, oui, mais c'est sûr.
C'est ça, parce que quand on regarde le méthode de traitement, moi, je me suis basé sur des articles écrits par des médecins, hein, donc je le précise bien, c'est des médecins qui ont écrit les articles. Comment traiter une rougeole ou une varicelle, etc. Souvent, la varicelle, c'est on évite de se gratter les boutons, on met une pommade pour éviter que ça gratte et tout ça, on surveille qu'il n'y a pas trop de fièvre, et c'est tout ce qu'on fait. On ne donne pas d'antibiotiques ou que ce soit. La rougeole, c'est encore pire, c'est... Alors, paracétamol, c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus, mais on regarde que la température ne monte pas trop. En fait, on laisse la maladie faire son travail, le système immunitaire, on le laisse travailler, et hop, fini. Donc, oui. C'est là qu'on se dit, pourquoi un vaccin alors qu'en fait, l'acte médical pour soigner la maladie, c'est juste donner du paracétamol. C'est là qu'on se dit, il y a un souci, quoi. Et là, on n'est pas en train de soigner. Alors, la scarlatine, par exemple, la scarlatine, là, ça demande en fait d'avoir des antibiotiques. Bon, la scarlatine, par contre, c'est pas le même type de maladie. C'est quand même un peu plus virulent, quoi. Et c'est pas, je crois pas que c'est classé dans les maladies infantiles. Mais à ma connaissance, je crois pas qu'il y ait des vaccins contre la scarlatine. Enfin, je peux me tromper, mais il me semble pas qu'il y en ait. Pourtant,
on va pas tarder de sortir.
Oui, bah, j'ai déjà vu des vaccins pour éviter les maux de ventre.
Voilà.
Je vois pas trop l'intérêt parce que si on a des maux de ventre quelque part, c'est que le ventre il est en train de nous dire quelque chose.
Oui.
Voilà. Si on a mal au ventre, c'est quelque part, bah, peut-être que ce qu'on a mangé, bah, c'est pas bon, ou alors que peut-être on n'a pas une alimentation, pardon, très très équilibrée, quoi, très adaptée à notre système. Donc, c'est un peu le problème de la médecine actuelle. C'est que, bon, la médecine actuelle, heureusement qu'elle est quand même là parce qu'elle sauve quand même des gens. Hein, faut pas non plus lui tirer dessus. Hein. Mais Hippocrate, lui, il ne faisait pas que soigner les maux. Hein, c'est ce qu'on voit un petit peu là. Quand tu as mal à la tête, hop, tu prends un dafalgan ou un truc comme ça, paracétamol. Mais pourquoi tu as mal à la tête? On va pas chercher pourquoi. Hippocrate, lui, il soignait donc le mot, enfin les mots, et après, il allait savoir qu'est-ce qui a déclenché ça. Sauf que malheureusement, la médecine actuelle ne le fait pas souvent. C'est pas systématique.
Elle ne le fait jamais, je pense.
Ouais. Alors après, je pense que ça dépend après du médecin, parce qu'il y a des médecins quand même qui.
Ah, oui, ça dépend des médecins.
C'est ça. C'est ça.
Mais dans leur l'enseignement qui est donné aux étudiants. On soigne le corps, et le corps avant tout, quoi.
Ouais.
Et on soigne ce qu'on voit. Et voilà. Alors que la cause est un petit peu abandonnée. Hein.
C'est ça.
Mais il y a des médecins, bien sûr, qui se posent des questions et qui vont chercher la cause. Ouais. Ça, c'est intéressant.
Ça a été justement, bon, c'est pas pour lui faire de la pub, mais c'est vrai que c'est ce qu'il dit, hein, Christian Talchaleur. Hein, c'est même pour ça qu'il s'est orienté vers des trucs un peu plus holistiques pour comprendre pourquoi. Pourquoi il y a eu telle maladie, pourquoi il y a telle chose, pourquoi il y a tel mot. Afin de régler ceci. Donc là, en fait, il a fait ce que Hippocrate disait à l'époque de son vécu. Et c'est vrai que quand on en revient à ça, malheureusement, quand on lit par exemple le serment d'Hippocrate, hein, bon, je ne l'ai pas sous les yeux, hein, mais on peut le retrouver sur Internet en le tapant, et c'est vrai qu'on se rend compte que très souvent, bah, les médecins, déjà quand ils forcent les gens, par exemple les pédiatres qui disent « Ah mais si, il faut se faire vacciner, machin, nanana, mais qui forcent », c'est-à-dire que quand je dis qui force, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas obligatoires.
Oui.
Voilà.
Oui.
Il est force, mais pourquoi ? Dans le serment d'Hippocrate, c'est marqué que je m'engage à ne pas, je sais plus le texte et tout ça, mais en gros, qui s'engage à ne pas forcer un patient contre son avis, quoi. Oui. Je suis juste là pour l'accompagner, pour lui conseiller de lire ça, 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 mais voilà, je le laisse choisir. Et oui. Très souvent, c'est pas le cas, malheureusement. Mais pourquoi ? Bah, c'est que d'ailleurs il y a je crois que c'était sous le gouvernement Hollande qu'ils ont sorti un site qui donne justement le nom des médecins qui touchent des petits plus, quoi.
Ah ça oui,
voilà. Et oui, et souvent on voit que c'est très souvent les pédiatres qui touchent des petits bonus des labos, quoi.
Bien sûr. Mais oui, Hippocrate parlait du hasard aussi.
Oui, sûrement. Oui, je...
Parce qu'une maladie ne vient jamais par hasard. Elle a toujours un début et une fin. Et Hippocrate disait, le hasard, quand on vient à l'examiner, se trouve n'être rien. Tout ce qui se fait a une cause certaine, et cette cause se trouve encore en avoir une autre qui l'a produite. On ne voit point que le hasard puisse exister dans la nature, c'est seulement un nom. Mmh. Voilà, et c'est pour ça que on peut considérer que quand une maladie arrive dans un corps, ça n'est jamais le fait du hasard, et ça n'est jamais le fait de l'extérieur à la personne. C'est-à-dire que cette maladie, elle est arrivée par l'intérieur de la personne. Donc la cause est à trouver à l'intérieur de la personne, toujours. Parce que si la cause était appliquée à quelque chose qui vienne de l'extérieur de la personne, alors on pourrait parler de hasard.
Oui.
Mais quand il n'y a pas de hasard, eh bien, quand on a une maladie, n'y a pas à aller chercher à l'extérieur d'où vient cette maladie. On ne l'a pas attrapée. On dit on l'a chopée. Non, non.
Oui.
On a cette maladie parce que quelque chose en nous l'a créée. Et c'est ça qui est intéressant de comprendre. Ce que ne fait pas généralement la médecine. Tu vois.
Oui.
C'est ça, aller chercher le cause, la cause et le sens de la maladie. Parce que toute maladie a un sens.
Mmh. Ben justement...
particulier adapté à la personne en question. C'est important de comprendre ça.
Ben justement, je suis tombé sur le serment d'Hippocrate, donc le texte original qui a été traduit du grec.
Oui.
Donc je vais le lire. Hein. Bon, il y en a, enfin c'est un petit peu, mais bon, je pense que ça peut être intéressant.
Oui.
Je jure par Apollon, médecin, par Asclépios, par Hygie et Panacée, par tous les dieux et les déesses, les pronoms à témoin de remplir selon ma capacité et mon jugement ce serment et ce contrat. De considérer d'abord mon maître en cet art à l'égal de mes propres parents, de mettre à sa disposition des subsides, et s'il est dans le besoin de lui transmettre une part de mes biens, de considérer sa descendance à l'égal de mes frères, et de leur enseigner cet art, s'il désire l'apprendre sans salaire ni contrat, de transmettre les préceptes des leçons oraux, enfin, des leçons orales et le reste de l'enseignement à mes fils, à ceux de mon maître et aux disciples liés par un contrat et un serment suivant la loi médicale, mais nul autre. J'utiliserai le régime pour l'utilité des malades suivant mon pouvoir et mon jugement, mais si c'est pour leur perdre ou pour une injustice à leur égard, je jure d'y faire obstacle. Je ne me remettrai à personne une drogue mortelle si on me le demande, ni ne prendrait l'initiative d'une telle suggestion. Donc là, on en revient un petit peu, tu sais, au droit de mort, tu vois. Là, on le voit que là, ça ne rentre pas du tout dedans. De même, je ne remettrai pas non plus à une femme un pesser abortif. Je ne sais pas trop ce que c'est. Pesser abortif. Non, abortif. Ouais, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc, C'est dans la pureté et la piété que je passerai ma vie et exercerai mon art. Je n'inciserai pas non plus les malades atteints de lithiase, mais je laisserai cela aux hommes spécialistes de cette intervention. Dans toutes les maisons où je dois entrer, je ne pénétrerai pour l'utilité des malades en me tenant à l'écart de toute injustice volontaire, de tout acte corrupteur en général, et en particulier des relations amoureuses avec les femmes et les hommes, libres ou esclaves. Tout ce que je verrai ou entendrai au cours du traitement ou même en dehors du traitement concernera la vie des gens. Si cela ne doit jamais être répété au dehors, je le tairai, considérant que de telles choses sont secrètes. Donc là, le secret médical. Eh bien donc, si j'exécute ce serment, je ne l'enfreins pas, qu'il en soit donné de jouir de ma vie et de mon art, honoré de tous les hommes pour l'éternité. En revanche, si je le viole, que je me parjure que ce soit le contraire.
Oui. Voilà. C'est intéressant ça, tu vois, je l'avais pas...
C'est le texte original, a priori.
Oui, c'est bien sûr, oui, mais ça fait un moment que je ne l'ai pas lu, ça.
Alors, c'est très court, hein, mais c'est vrai qu'il y a des choses que je ne sais pas trop ce que c'est. Bon, je pense que ça devait plus dater de cette époque-là, hein. Forcément, il y a eu des évolutions par rapport à cela, mais c'est vrai que on voit quand même dedans qu'il y a le secret médical, le fait de ne jamais attenter à la vie de qui que ce soit, de ne jamais lui donner des drogues ou des poisons mortels. Donc là, on se dit, aluminium, c'est quand même un neurotoxique. Ça, on peut me le dire, vous allez taper sur Google, aluminium, vous allez sur n'importe quel site, ça vous dit neurotoxique. C'est pas moi qui l'invente, hein, ce sont des scientifiques qui l'ont découvert. Donc, alors ok, il y a peut-être une certaine quantité qu'il faut absorber, mais si on calcule avec ce qu'on mange, parce que je pense que tu dois le voir aussi, hein, les emballages des alimentations, c'est souvent dans des trucs un peu métalliques.
Oui.
C'est de l'aluminium, donc le produit il est contaminé par l'aluminium. Si on fait les vaccins plus ça plus je ne sais trop quoi, en fait je pense que les doses pas très bonnes arrivent. Puis c'est surtout qu'on se rend compte que pareil, alors je sais pas si la personne dont tu as parlé, Michel Georget, s'il a fait ces déductions là, mais depuis les obligations vaccinales, j'ai remarqué quand même, enfin moi de mon côté, je crois que Sylvie Simon avait peut-être un petit peu lancé sur cette piste aussi, que les maladies neurologiques avaient explosé en flèche.
Bien sûr, oui, bien sûr.
Dès lors de l'introduction, parce qu'il faut savoir que les vaccins à l'origine étaient faits avec du... Alors pour faire réagir le corps, c'était du carbonate de calcium, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est quelque chose qu'on trouve naturellement dans les os, donc de notre corps, donc quelque chose de entre guillemets naturel. Et depuis qu'en fait le laboratoire Pasteur a été racheté par d'autres, et à l'origine c'était Merck qui avait racheté, et donc là Merck en fait ils ont tout rendu universel que tous les vaccins devaient être sous aluminium. Voilà,
oui,
tous.
Oui.
Voilà, parce que moi je m'en souviens, j'ai déjà eu le vaccin, donc le DTP à l'époque obligatoire, et dedans il n'y avait pas d'hydroxyde d'aluminium. Oui. C'était du carbonate de calcium. Enfin, il me semble que c'était ce nom-là. Je me trompe peut-être, mais il faudrait que je recherche, mais c'était un autre produit qui était tout, enfin, plus naturel que de l'aluminium, quoi.
Oui. Mais oui, c'est vrai, bon, l'aluminium, c'est important de d'en parler. Ce qui est le plus important, c'est de savoir si les vaccins sont vraiment utiles. Voilà. Et ça, c'est important, parce que les vaccins ont des effets secondaires causés par l'aluminium et bien d'autres produits qui s'y trouvent, ont des effets secondaires gravissimes. Mais ça, c'est pas mis en évidence et on n'en parle pas beaucoup. Et pourtant, les effets secondaires sont importants, sont très nombreux, ils sont très fréquents. Et moi, j'observe dans les patients que j'ai ou qui viennent me voir ou que parmi les amis, parmi les gens que je connais, quand le réflexe qu'on peut avoir maintenant, c'est de savoir est-ce que la personne a été vaccinée quand elle a une maladie qui n'était pas tout à fait, qui est un peu surprenante, quoi, une maladie un peu plus rare. Et on s'aperçoit que les vaccins, la personne a été vaccinée et quelquefois, quand c'est un enfant, un vaccin a été donné peu de temps avant. Mais jamais on ne fait le rapport. On va donner un nom à la maladie, l'enfant va être soigné, on va faire ce qu'on va pouvoir, bien sûr, et on ne va jamais faire le lien avec le vaccin. C'est ça qui est étonnant, quoi.
Oui.
Ce qu'on ne sait pas, c'est que beaucoup, beaucoup d'enfants contractent des maladies suite au vaccin. Beaucoup. Et quand on dit beaucoup, on ne peut pas savoir le nombre. Il est très important, je crois.
Oui.
Mais comme on n'en parle pas, il faut aller chercher l'information. Et Michel Georget, lui, il a fait ses recherches. Il donne des chiffres, quand même.
Oui, parce que ça, je ne suis pas étonné. Déjà, les cas d'autisme ont explosé. Les cas de SEP, donc sclérose en plaques, ont explosé aussi. Les cas de fibromyalgie, pareil, en fait, tout ce qui est un peu neurologique, en fait, tout ce qui touche neurologique, donc le cerveau, mais aussi tout ce qui touche aussi au niveau des nerfs, en fait, tout ce qui est système nerveux. Et justement, comme par hasard, c'est que cet aluminium est un neurotoxique.
Donc, oui, bien sûr.
Donc, quelque part, la relation, elle est plus ou moins là, quoi. Et je crois qu'il y a des scientifiques qui ont fait la relation. Déjà, dernièrement, a priori, le tribunal à Bordeaux ont reconnu pour une personne que... de la maladie qu'elle avait, je crois que c'est une sclérose en plaques. Donc, ça a été reconnu que c'était causé par le vaccin.
Oui, on commence à en parler. Oui. On commence à faire ce lien, on commence à le dire. Mais ce n'est pas franc encore. Ce n'est pas généralisé.
Non.
Quoi.
Non, non.
Oui, il y a des progrès. Et ça, c'est intéressant. C'est bien. Mais ce n'est pas encore le cas. Alors, il y a beaucoup de médecins, et notamment aux États-Unis, beaucoup, beaucoup, beaucoup de médecins maintenant sont alertés, se sont mobilisés pour en parler, tout ça. Mais le poids de la presse officielle est encore trop fort. Ce qui fait qu'ils en parlent, mais entre eux, quoi. Et l'information n'arrive pas au grand public encore.
Ouais.
N'arrive pas aussi vite qu'on voudrait, quoi. Et en France, c'est un peu pareil, bien sûr. Mais l'information, quand même, maintenant, commence à circuler de plus en plus. Je vois des gens, quand même, de plus en plus avertis. Et de plus en plus... inquiet au sujet de ces vaccins, de plus en plus. Alors, il y en a qui ont peur, parce que voilà, si on ne fait pas vacciner mon enfant, il ne pourra pas aller à l'école et tout ça. Bon.
C'est ça.
Mais ça, c'est des menaces qu'on donne. Et, bon. Maintenant, voilà, le problème, c'est de savoir est-ce que les gens seront assez forts pour prendre une décision. Une décision conforme à leur santé, quoi. Hein, la santé de leurs enfants. Voilà, c'est ça. Mais moi, j'ai bon espoir. Ça va se faire. Les choses vont changer.
Oui, déjà, il y a une plainte qui a été qui va être déposée en pénal. Alors ils essaient de rassembler, je crois qu'ils ont dépassé les 1000 personnes pour faire une plainte en pénal contre le gouvernement, contre la nouvelle loi qui considère anticonstitutionnelle et contre les droits de l'homme aussi. Donc on verra ce que ça va donner. Pour l'instant, elle n'est pas encore déposée, mais je pense qu'elle ne va pas tarder, hein, parce qu'ils attendent encore d'avoir un maximum de personnes. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi ? Il y avait un autre truc aussi qui était assez important par rapport à ça. C'est comme tu disais, c'est vrai que c'est le pouvoir des médias qu'ils ont de rabâcher en fait, les choses. Et d'ailleurs, il me semble que c'était... un des généraux d'Hitler, Goebbels, je crois que ça doit être lui, qui disait répéter un mensonge plusieurs fois et ça deviendrait une vérité.
Ah ben oui,
il me semble que c'est Goebbels qui a dû le dire, je ne sais plus.
Goebbels, ouais. Mais bien entendu, les communicants actuels sont très forts dans ce domaine. Ils savent exactement la puissance du verbe, la puissance du mot, et ils s'en servent dans la communication, bien sûr. C'est pour ça que l'important pour chacun d'entre nous, pour chaque être humain, c'est d'aller chercher cette liberté au fond de lui et se fermer un peu aux informations officielles parce que on n'a pas ce qu'il y a de meilleur, quoi. Mmh. Voilà. Et des informations, il y en a. Il y a Internet. Internet, c'est un outil formidable. Il y a beaucoup de bêtises.
Oui, ça.
Il y a beaucoup de choses qu'il faut laisser de côté, mais on peut aller puiser des informations tout à fait extraordinaires. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'il faut exercer son discernement.
C'est ça, c'est ce que je dis souvent.
Ah, ça, c'est très important. Mmh. Si chacun pouvait exercer son discernement, aller chercher l'information dont il a besoin exacte, là, d'un coup, les choses changeraient complètement. Et les médias perdraient leur puissance et leur force.
Mmh. Le pouvoir. Tout à fait.
Et leur pouvoir. Parce que c'est un pouvoir plus important encore que la politique.
Oui,
la presse.
Oui, le bien pouvoir sûr. Du verbe, oui.
Je me rappelle d'un article que j'avais découpé dans un journal espagnol qui s'appelle La Vanguardia de Barcelone. C'est un médecin qui s'appelait Robert Richard, je crois. Tiens, je me souviens maintenant. Il a eu le prix Nobel en 93. Cet article, je l'ai conservé, mais j'ai plus le texte en tête, mais il disait deux choses. Dans un article de La Vanguardia, une demi-page, un bel article,
ah oui, quand même.
Il disait une chose, c'était que tous les hommes politiques, d'après lui, tous les hommes politiques importants, avant les grandes élections, les élections les plus importantes, comme celle de président de la République ou celle de... bref, des élections de ce type-là, quoi.
Oui. Législatives.
Hein. Ces gens-là, ces hommes politiques... leur campagne électorale était financée pratiquement en totalité par les laboratoires pharmaceutiques. C'est ce qu'il disait en 93.
Ouais.
Moi, je me rappelle, j'ai découpé cet article parce que je me trouvais à Barcelone, j'avais acheté par hasard ce journal, c'est extraordinaire, et j'avais gardé cet article. Il disait ça. Eh bien, je l'ai toujours vérifié. Enfin, je me suis toujours essayé d'appliquer, d'essayer de le vérifier. Hein. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que quand nos présidents ont été élus, je crois Chirac, la première mesure, il a pris une mesure en faveur de la Ligue contre le cancer, je crois, qui est aux ordres des laboratoires, bien sûr.
Oui, tout à fait, oui.
Sarkozy a pris une mesure concernant Alzheimer.
Oui, c'est vrai.
Mais je me demande si un frère à lui n'était pas président d'un laboratoire pharmaceutique fabriquant le médicament contre Alzheimer. Je me demande, je ne suis pas sûr.
Alors là, je ne sais pas du tout. Honnêtement, je ne sais pas.
Il faut vérifier tout ça.
Ouais.
Quant à Macron, alors c'est pire que ça. Bien sûr qu'ils sont derrière lui.
Oui, les vaccins.
Alors c'est pour ça que les mesures que prend le gouvernement... elles sont, on peut dire, téléguidées par les laboratoires pharmaceutiques. Donc ce ne sont pas des décisions politiques objectives, mais des décisions politiques intéressées.
Hein, oui.
On renvoie la balle de celui qui m'a fait élire.
C'est ça. Mais comment dire, c'était. Oui, c'est François Asselineau qui avait parlé de ça, justement. Qu'il avait dit, de toute façon, il a dit en France, il a dit il n'y a plus de pouvoir politique, il n'y a plus de président. Il dit le seul président qu'il y a, c'est M. Juncker. Parce que c'est l'Europe. En fait, c'est
oui,
vrai
oui,
qu'il y a.
C'est sûr, c'est sûr.
Quand tu regardes, là, regarde déjà comment ça se passe en Europe. Pour, par exemple, pour les pesticides. D'ailleurs, c'était. Comment elle s'appelle, la journaliste qui est de France 2 qui avait fait justement un reportage sur ça.
Lucet.
Oui, c'est ça, Élise Lucet, qui avait montré en fait une organisation, donc une ONG, qui repérait en fait les députés européens qui étaient, entre guillemets, grassement payés par les lobbies agroalimentaires et tout ça, quand il y avait des lois qui allaient contre eux. Et ben, hop, ils payaient les eurodéputés comme ça, ils leur faisaient des petits cachets, hein, et du coup, ben, ils votaient pour la faveur du lobby. Donc, du coup, quand il y avait des lois qui pourraient. Par exemple, comme glyphosate, eh ben là, on sait très bien comment ça s'est passé. Hein. Monsanto, qui a été racheté par Bayer, qui est une énorme puissance, parce qu'il travaille dans les pesticides, mais il travaille aussi dans les médicaments. Donc lui, il a la totale. Et donc, on sait très bien comment ça fonctionnait. Hein. Cette ONG-là, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, elle est justement là pour étayer des choses, pour après faire des plaintes, mais bon, le problème, c'est qu'on lui met beaucoup de bâtons dans les roues, enfin voilà, et même des fois des menaces de mort. Hein. Il le disait, hein, je crois, dans ce reportage. Donc voilà, donc, si ça se passe comme ça au niveau européen, bah, faut pas s'étonner qu'au niveau France, bah, c'est pareil. Hein. Je suis pas du tout étonné de ce que le médecin là, que tu m'as dit, là, de l'article, j'en suis pas étonné. Hein.
Robert Richard. Alors, il disait une deuxième chose qui m'avait vraiment intéressé, c'est que quand un chercheur dans un laboratoire pharmaceutique avait trouvé de son propre chef, par exemple, un médicament contre maladie et quelque chose qui aurait vraiment, vraiment aidé l'humanité, quoi, hein, quelque chose de vraiment très utile, eh bien, cette découverte était mise au fond d'un tiroir et on n'en parlait pas. C'est à peu près en ces termes qu'il parlait. Hein. Il parlait assez direct. Hein.
Ouais.
Article dans la Vanguardia, hein. Prix Nobel de 93.
Ouais.
C'est intéressant, hein.
Oui, c'est ça. Ben, c'est typiquement d'actualité en ce moment. Hein.
C'est pour ça que les laboratoires pharmaceutiques, bon, on peut en dire beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Hein. Ouais. Alors, bien sûr, il faut avoir des preuves, mais bon, les preuves, il y en a maintenant de plus en plus.
Oui, maintenant, ils se... À l'époque, ils faisaient attention. Maintenant, ils voient que les gens sont très devant leur télé à écouter tout. Et c'est vrai que malheureusement, j'ai vu une étude il n'y a pas longtemps sur le QI moyen en fait en France. A priori, on est en dessous des 80.
Oui.
Ça fait peur. Ça fait peur. Honnêtement, ça fait peur. Quand on sait qu'en 2006, si je ne me trompe pas, on était à 90, donc le QI moyen. 90, c'est vraiment... C'est le basique, hein. Et là, on est en dessous, donc c'est extrêmement grave, quoi. Mais
c'est juste, j'ai vu cette information. Mais moi, a priori, quand je reçois une information d'un grand média, je me méfie automatiquement. Hein. Je me dis, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je n'en sais rien. Donc, j'ai vu cette information. Moi, je sais pas. J'ai pas vu l'étude. J'ai pas vu comment ils ont établi ça. Je sais pas. Tu vois? Moi, je me dis, j'attends d'avoir des preuves, je ne sais pas. Ok, il y a eu cette information, est-ce qu'elle est vraie? Bon, on ne sait pas si elle est vraie. Peut-être qu'elle est vraie, hein, peut-être qu'elle est vraie. Et dans ce cas, on pourrait en déduire que le niveau a baissé, effectivement. Ce qui n'est pas étonnant.
Oui. Bah...
Ce qui est pas étonnant. Mais écoute, de toute façon, en fait, ouais, le QI, qu'est-ce que ça veut dire le QI? C'est le niveau... Bon, un niveau d'intelligence qu'on peut mesurer, vaguement.
Oui, vaguement, oui. C'est...
Hein, mais c'est un niveau d'intelligence qui mesure quoi? Le niveau intellectuel de l'ego, hein, du mental. Bon, l'intelligence du cœur, c'est autre chose. Moi, ce qui m'importe, c'est l'intelligence du cœur. Et c'est celle-là qui va nous faire sauver. C'est celle-là qui va nous sauver. C'est pas l'intelligence du mental qui va nous sauver. Tu vois?
Oui.
C'est surtout l'intelligence du cœur. C'est celle-là qui ouvre au discernement. Et c'est le discernement de chacun qui va faire en sorte que le monde sera sauvé. Tu vois? C'est pas par les hommes politiques qu'on sera sauvé. c'est par chacun d'entre nous. Donc c'est pour ça que nous sommes là, quand je dis nous, moi à mon petit niveau, toi avec ta radio, tous les gens qui ont le moyen de faire passer des informations, c'est de passer des informations pour aider les gens à s'ouvrir, à changer de perception et monter le niveau de conscience et élargir son discernement, approfondir son discernement, tu vois, pour aller voir la vérité là où elle se trouve et non pas s'égarer dans des méandres de mensonges donnés par nos médias, tu vois.
Alors, pardon, ça, cette information-là, ça vient pas d'un média de France, hein. C'est parce qu'en fait, je remarque en fait le niveau de culture en France, ça a énormément baissé parce que tu vois, par exemple, là, il y a un article.
Oui, mais ça, c'est juste la culture a baissé.
Oui, mais là, par exemple, tu vois qu'il y a des gens.
Ce qui est différent du QI.
Oui. Oui, non, mais enfin, je veux dire, ça montre en fait que le côté, en fait, et ça, François Célineau, il en parlait il n'y a pas très longtemps. Des émissions, tout ça, qui sont dans le but de faire l'abrutissement, de faire baisser l'intelligence des gens et la culture, qu'au point qu'on voit, par exemple, tu avais des pulls de sportifs donc d'un pays nordique, je ne sais plus lequel, où ils avaient mis des écritures de runes, donc des écritures runiques, donc l'écriture viking. Ouais. Et ben, ils ont été interdits de porter ces pulls parce que c'était des écritures nazies. Oui, mais attends, ce n'est pas fini. Maintenant, ça se passe au Japon et tu as donc des croix gammées qu'il faut savoir que ça s'appelle une svastika. Mais ce n'est pas une croix gammée, ce sont des symboles qui existent depuis très longtemps, qui existent aussi au Tibet. Et bien, les autorités japonaises vont les détruire parce qu'ils en ont, entre guillemets, un peu marre d'être comparés à des symboles nazis. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout la même chose. Ces symboles-là existaient depuis des siècles, bien avant le nazisme et Hitler. Mais les gens, ils voient ça, pour eux, c'est des écritures nazies.
Oui, bien sûr. Bon,
ça, quelque part, ça étaye ce que François Sonnelier disait, c'est-à-dire le niveau de culture a baissé, quoi.
Non, mais ça, c'est sûr.
C'est triste. Pourquoi...
Je te coupe, Cédric, parce que t'as vu l'heure qui passe, mais je voudrais terminer par autre chose.
Oui, pas de souci.
Je voudrais me garder une minute ou deux. En parlant de François Asselineau, je remarque que beaucoup de choses qu'il dit, je trouve que c'est très intéressant. C'est un type qui a beaucoup travaillé et mis à jour beaucoup de mensonges. Bon, c'est vrai, il a fait un super travail. Et c'est dommage pour les élections qu'il ait eu si peu. Oui. Néanmoins, il y a quelque chose que je trouve curieux chez lui, c'est que quand il s'agit de parler des vaccins, là, il est très évasif, et ben, il ne s'avance pas du tout. Et là, je suis assez curieux. Alors moi, je lui ai écrit une lettre, où j'ai expliqué une longue lettre, il ne m'a pas répondu. Et là, je suis encore un peu plus surpris qu'il ne m'ait pas répondu. Tu vois ? Voilà, moi j'aurais voulu qu'il prenne parti, qu'il dise quelque chose, qu'il se renseigne. Je lui ai envoyé pas mal de vidéos, et en les regardant, à mon avis, il y a matière à changer d'avis, tu vois ? Ou du moins à ouvrir sa réflexion sur autre chose, quoi. Et bon, je suis un peu surpris. Alors, si des fois, toi, tu as tes entrées chez lui,
oui.
souffle-lui de mots et dis-lui qu'il me réponde.
Alors moi, c'est vrai que j'avais posé une question, bah, c'était juste après les élections, qu'il avait parlé d'un truc par rapport à la Russie, qu'on risquait d'avoir des problèmes avec la Russie dans le futur. Donc je lui avais demandé pourquoi il avait dit ça. Bon, je n'ai pas eu de réponse, mais il faut savoir que ce n'est pas lui qui regarde ses pages. Ce sont des gens du parti. Parce que forcément, lui, il n'a pas que tout le temps à regarder. Alors après, est-ce que ces gens transmettent le message ? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que par rapport au vaccin, quand il avait fait les directs pendant les élections, il y a des gens qui lui ont posé la question. Donc il lui avait dit que lui, il n'était pas anti-vaccin. Il n'était pas non plus pro-vaccin. Et il a dit que la liberté vaccinale était plutôt une bonne alternative pour laisser chacun... que chacun soit, comment dire... en accord avec ce qu'ils veulent faire, parce que pour lui, l'obligation, ce n'était pas non plus une des solutions. Voilà.
Non, mais s'il se contente de dire ça, mais il ajoute qu'il reconnaît que les vaccins ont éradiqué des maladies.
Oui.
Et là, pour moi, c'est un jugement qui est totalement infondé. Alors, François Asselineau, qui a l'habitude d'aller chercher vraiment la petite bête au fond des choses, eh bien là, pour les vaccins, il ne le fait pas. Il s'est contenté de répéter ce qu'il a entendu.
Ouais.
Voilà, c'est juste ça.
Oui.
C'est juste ça que je voudrais que le faire réfléchir un petit peu. Voilà.
Ben c'est vrai que par rapport à ça, bon, à un moment, il avait reconnu qu'il y avait des sujets, il n'avait pas trop planché dessus parce que il y avait tellement de secteurs parce que du fait qu'il était très peu connu et tout, donc il a dû être axé sur les très gros sujets, notamment Europe et tout ça. Enfin, reconnaît que sur ça, oui, il a été plutôt light. Au niveau des animaux, pareil, il a été très très long à répondre.
Oui.
Par rapport, oui, aux droits des animaux et tout, il a été très long. Mais bon, voilà, il l'a reconnu qu'effectivement, puis qu'il ne pouvait pas tout faire.
Oui, mais je te fais remarquer, Cédric, il s'est attardé sur les gros sujets.
Oui.
Et sur les petits sujets, il a passé un petit peu. Écoute-moi, moi je pense que les vaccins, c'est le plus important de tous les sujets. La santé des gens, c'est ce qu'il y a de plus important. Qu'est-ce qui est plus important chez un être humain, sinon sa santé? C'est ça que je lui ai dit, c'est ça que je lui ai dit dans ma lettre, et j'aurais voulu qu'il me réponde là-dessus. Pour moi, le sujet le plus important de tous ceux qu'il traite, c'est les vaccins. C'est mon point de vue.
Oui, mais pourtant, Macron, lui, il n'en a pas du tout parlé. Hein. Pourtant, c'est son gouvernement qui nous a pendu les
roues. Oui, mais parce que c'est un sujet qui... il ne faut pas en parler, les laboratoires. Mettre le grappin dessus, mettre le couvercle dessus, il ne faut pas en parler. Hein, il faut laisser faire les informations officielles et n'en parlons pas. Il ne faut pas qu'il y ait de discussion là-dessus. Tu comprends ? Il ne faut pas qu'il y ait de discussion parce que c'est trop dangereux. Les vaccins, c'est vraiment la vache à lait de tous les laboratoires pharmaceutiques.
Oui, pas ça. Mais de toute façon, je pense qu'en fait, sa priorité, c'était vraiment de faire sortir de l'Europe, parce que je pense qu'en sortant de l'Europe, c'est là que tous les lobbies, tout ça, ils perdaient leur pouvoir.
Oui, alors il y a une chose que je rajoute, c'est qu'il dit dans ses arguments qu'il se réfère à l'OMS. Mais l'OMS est à 100% dans les mains des laboratoires pharmaceutiques.
Oui, non, mais ça, oui.
Non, mais comment quelqu'un comme Asselineau, qui va chercher les choses, c'est Colombo, la puissance 100, Asselineau. Il a fait un travail fabuleux sur plein de sujets. Comment se fait-il que sur ce sujet, il fasse abstraction, il passe dessus, tu vois? Pas, il se réfère à l'OMS, mais l'OMS, il y a 40 ans, ne disait pas les mêmes choses que maintenant. Maintenant, elle est complètement dans les mains des laboratoires.
Oui, bah c'est pareil aussi son côté pour être pour l'OTAN. Je ne suis pas trop d'accord non plus avec ça.
Bah, voilà, et l'ONU.
L'ONU.
Moi, je ne suis pas trop d'accord.
Oui.
L'ONU, ça a été fabriqué par les maîtres du monde. Hein,
oui, bah oui. Bah, de toute façon, le siège, il se trouve sur un terrain de Rockefeller. Donc, on sait très, très bien qui est derrière. Mais...
Voilà. Donc, oui, c'est une petite chose. Voilà. Je voudrais terminer, Cédric, sur le pardon quand même.
Oui, le mot de la fin. Oui.
Le mot de la fin. Alors regarde, je voudrais citer une phrase très courte que tu as dû voir sur Facebook, et je trouve qu'elle est très belle parce que je l'avais mise dans mon cahier, le cahier que j'ai écrit, qui s'appelle le petit cahier d'exercice du pardon selon Ho Oponopono. Hein. C'est cette phrase que disait Bouddha, parce que Bouddha aussi enseignait le pardon. Il disait, si un serpent te mord, tu ne vas pas courir après lui pour le punir. La première chose à faire, c'est d'enlever le venin. Et ça, c'est une phrase très très forte qui résume tout le pardon. Parce que si quelqu'un t'embête, te fait du mal, tu vas pas courir après lui pour le frapper. Tu vas d'abord aller voir en toi qu'est-ce qui a fait que tu as mal. Tu vas aller voir en toi quelle est la douleur que tu ressens pour te guérir. C'est pas parce que tu vas le frapper dessus que tu vas avoir moins mal.
Oui, c'est sûr.
Tu vois, cette phrase est très, très puissante. Et j'ai eu beaucoup de retours sur cette phrase-là. Si un serpent te mord, tu ne vas pas courir après lui pour le punir. La première chose à faire, c'est d'enlever le venin. Ça, c'est une phrase qu'on devrait savoir. C'est une phrase superbe. Et ça résume tout le pardon. Le vrai pardon, hein, le pardon véritable. Voilà le mot de la fin. Je voulais terminer là-dessus. Parce que quand on est dans le pardon, quand on vit dans le pardon, mais toutes les choses dont on a parlé, en fait, elles sont secondaires. Parce que si on est dans le pardon, on est dans la paix. Et si on est dans la paix, il n'y a plus rien qui nous touche.
Mmh, tout à fait.
Plus rien qui nous atteint. Et qu'on soit vacciné ou pas, eh bien, on aura un système immunitaire toujours au top. Grâce au pardon.
Mmh. Oui.
Tu vois, là, on passe à un autre niveau, tu vois, mmh. tout de suite. Là.
Et voilà. Bon, alors, enfin, c'est pas vraiment le mot de la fin, mais on va dire pour clôturer un petit peu le sujet. C'était mmh. Sylvie Simon qui disait ça à la fin d'une interview, qui disait que c'est pas les maladies qu'on entend qui sont le plus grand danger pour ce monde. Elle a dit la plus grande des maladies qui fait le plus grand ravage, c'est la peur. Et si celle-ci était éradiquée, le monde se porterait beaucoup mieux.
Eh bien, bien entendu. Mais quand tu es dans le pardon, tu n'as plus aucune peur. Mmh. Quand tu es dans le pardon, il n'y a plus de peur qui tienne la route. Elles s'évanouissent, elles partent, elles se désagrègent, elles disparaissent. C'est ça. Le pardon, c'est le meilleur médicament qui puisse exister au monde. Un jour, je souhaite un jour voir dans les pharmacies des fioles, des pastilles, des sachets, des poudres avec le nom pardon écrit dessus. Ça, c'est mon rêve. Mmh. C'est le meilleur médicament.
Oui.
Et bien sûr qu'elle a raison de parler des peurs, bien sûr. Mais moi, je parle du pardon parce que quand tu es dans le pardon, il n'y a plus de peur. Tu vois, moi, je préfère parler de ce qui me fait plaisir que ce qui me déplaît.
Mmh. Oui, forcément.
Parce que si tu parles que ce qui te fait plaisir, ce qui te déplaît va disparaître. Tu n'as même pas besoin d'en parler. Moi, je parle du pardon. J'essaye de vivre dans le pardon pour éliminer toutes mes peurs. Tu vois ? Pour que les peurs se désagrègent complètement. Quand tu es dans le pardon, tu n'as plus peur. Parce que tu es en paix. Et si tu es en paix, il n'y a plus de peur du tout. Toutes les peurs. Bien sûr que la peur, tu as raison. Sylvie Simon le disait, mais il y a beaucoup d'autres qui le disent. Moi aussi, je le dis. Bien entendu. Bien entendu. Voilà, Cédric.
Ok. Eh ben, merci Jean pour cette émission du mois de février 2018 qui s'achève donc. On vous donne rendez-vous donc le mois prochain, donc hein, pareil, hein, le dernier vendredi de chaque mois. Donc là, ce sera donc pour le mois de mars. Et en attendant, n'hésitez pas à retrouver les autres émissions en direct, hein, Bien-être au quotidien et Histoire du soir. Qui sont diffusés tous les mois aussi. Et vous pouvez aussi retrouver tous les podcasts hein, depuis notre site de www.radioterrazen. Et surtout, là, c'est vrai que je n'ai pas regardé, en fait, parce que c'est vrai qu'on était inspiré dans... non, il n'y a pas eu de questions. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Hein. Bon, c'est vrai que là, j'étais complètement submergé par le sujet. Mais voilà, en tout cas, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à poser vos questions en direct hein, depuis le site... de Radio Terrazen, hein, je rappelle l'adresse hein, www.radioterrazen.net. Et ben je te souhaite une très bonne soirée Jean et je te dis donc au mois prochain.
Entendu, au voilà. Mois prochain.
Allez, à bientôt.
À bientôt, au revoir Cédric.
Voilà, allez, je vous dis donc à très bientôt et je vous dis donc au mois de mars pour une nouvelle émission de spiritualité en question et surtout en attendant, ben, prenez bien soin de vous et surtout hein, n'hésitez pas à nous contacter par le biais de la page Facebook ou depuis le formulaire de contact depuis le site de Radio Terrazen. À très bientôt. Au revoir.